Bonjour mes frères et sœurs. Nous avons chanté des cantiques, de beaux cantiques. Est-ce que vraiment nous voulons les vivre ces cantiques? Parle-moi, montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. J'aimerais que nous lisions quelques textes ce matin. Combien je voudrais que nous écoutions. Beaucoup de chrétiens entendent, ils entendent un sermon, ils l'entendent intellectuellement. Mais les oreilles de leur cœur sont bouchées. Dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur s'adresse à tous les hommes. C'est un texte qui est maintes fois utilisé pour l'évangélisation, et c'est très bien. Mais combien de chrétiens sont épuisés? Ça peut arriver, je ne parle pas de l'épuisement physique, je parle de l'épuisement de l'âme. Dans Matthieu chapitre 11, dont Jésus s'adresse à tous les hommes, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas été bien jusqu'à aujourd'hui, Dieu veut que vous soyez dans le repos. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Voilà le problème. Ce n'est pas le fait de venir à lui, c'est le fait de repartir de suite et de ne pas rester. « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » L'épuisement. Hier, je méditais des textes sur l'épuisement et je pensais au psaume 6. J'aimerais qu'on le lise, s'il vous plaît. C'est David qui l'a écrit, il est dans un moment difficile. David a traversé souvent des moments difficiles. Même s'il a écrit le psaume 23, « Tu restaures mon âme », je peux vous dire qu'il n'a pas écrit que ça. Dans le psaume 6, il est en conflit. Est-ce que ça peut arriver d'être en conflit avec des gens, des amis? Est-ce qu'on peut être en conflit avec des amis? Ben oui, bien sûr. Et David, mais c'est important mes frères et sœurs, parce qu'il y a des choses, quand on est chrétien, des fois qu'on n'arrive pas à accepter. Et c'est ça qui nous met loin de Dieu. David, il est regardez dans le psaume 6, au verset 7, vous pourrez le méditer pour votre culte personnel. C'est le verset 7 qui nous intéresse. Et 8. Regardez quand même, c'est important. Parce que l'épuisement, ça existe. L'épuisement physique, c'est pas trop grave, l'épuisement physique. Vous avez des fois entendu, oh, j'aurais préféré me casser une jambe que traverser une dépression. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, ça? C'est exactement ça. Parce que se casser une jambe, vous savez que dans 3 mois, ça sera à peu près réparé. Mais il y a des épuisements moraux, spirituels, qui existent. Et si on ne reçoit pas les instructions, on ne croira que pour un temps et on fera partie de cette foule énorme de rétrogrades qui peuple nos grandes villes et toutes nos villes. David dit donc, psaume 6, « Je m'épuise. » Au verset 4, vous voyez, « Mon âme est toute troublée. » Oui, ça arrive que l'âme soit troublée. « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. » Ça vous est arrivé de retourner dans le lit? « Mon lit est arrosé de mes pleurs. » J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir, etc. Il est dans un moment d'épuisement. Et Dieu le voit. Vous voyez, c'est bien que ça soit écrit. C'est bien que ce soit des gars, excusez-moi l'expression, mais comme David, qui témoignent de ces choses. Et ils sont... On peut le calculer comme on veut. Je sais que beaucoup de pasteurs ne seraient pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais il n'empêche quand même que dans cet épuisement... Il était malgré tout rempli du Saint-Esprit, puisqu'il a écrit ce psaume. Est-ce que ceux qui ont écrit dans la Bible étaient inspirés du Saint-Esprit? Donc, vous voyez, ce n'est pas incohérent. On peut être dans un moment d'accablement, d'angoisse même, quand il dit dans le psaume 34, « Les angoisses de mon cœur augmentent ». S'il le dit inspiré par le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est en lui. Et pourtant, il traverse ces moments d'angoisse ou d'épuisement. Et Dieu, lui... Il sait que les temps sont difficiles, il sait que tout va de plus en plus mal, mais il règne. Dieu règne au siècle des siècles. Et c'est bien un endroit où il désire régner, c'est dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Comment ? Recevez mes instructions. Beaucoup de chrétiens vivent mal leur vie spirituelle parce qu'ils ont mal commencé leur vie spirituelle. Vous savez, comme ces arbres qui ont poussé de travers et qui après, on ne peut pas les redresser. On essaye, mais on ne peut pas. Et c'était bien expliqué dans certaines paraboles quand Jésus dit « il croit pour un temps ». Moi, une fois, j'avais demandé au Seigneur « mais pourquoi il y a tant de rétrogrades ?» Et la parabole du semeur l'explique très bien. Jésus dit « il croit pour un temps ». Et dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. David a été angoissé, David a été éprouvé, etc. David a été épuisé, mais il n'a pas chuté. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a cherché les instructions du Seigneur. Quand vous lisez le psaume 119, vous êtes convaincu que c'est un homme qui cherchait les instructions du Seigneur. Si on ne cherche pas la réponse, c'est là que ce matin, on est là, c'est vrai, pour célébrer, on est là pour la communion fraternelle, car c'est vraiment un bienfait la communion fraternelle. Mais il y a des choses qui finissent par s'éloigner. Si nous ne pouvons pas chanter ce cantique qu'on a chanté, celui qui met en Jésus une pleine confiance. On a besoin de recevoir, recevez mes instructions. Venir à Jésus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les petits allers-retours du dimanche matin, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Venez à moi, Jésus sous-entend, c'est évident, qu'on va venir et rester. Rester et obtenir ces instructions qui vont nous permettre de comprendre les choses de Dieu. Parce que vous avez remarqué, quand vous êtes épuisé, comment vous êtes quand vous êtes épuisé ? Au niveau du caractère, au niveau de l'écoute, est-ce que vous écoutez facilement quand vous êtes épuisé ? Est-ce que vous avez envie d'écouter quand vous êtes épuisé ? On attend, non, tu m'énerves. C'est pas comme ça qu'on réagit des fois ? Mais c'est bon. Ça vous est déjà arrivé de dire, c'est bon, tu m'agaces. Bon, quand on le dit à quelqu'un, c'est pas bien déjà. Mais quand on a cette attitude vis-à-vis de Dieu, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est épuisé, il a du mal à écouter. Quelqu'un qui est épuisé, il a du mal à obéir. Quelqu'un est épuisé, a donc du mal à pardonner. Et à la place de pardon, c'est ce qu'on a chanté. Quand mon cœur était plein d'amertume. Est-ce que ça vous est arrivé d'être chrétien et d'avoir de l'amertume dans votre cœur ? Oui ou non ? Est-ce que ça peut arriver ? Mais bien sûr que ça peut arriver. Si vous me dites, venez me voir, votre témoignage m'intéresse. Si vous n'avez jamais eu de problème avec des chrétiens, ou avec des frères, avec des sœurs, avec des enfants, avec un conjoint, etc., venez me voir. Vraiment, vous m'intéressez. Il y a la fatigue physique, il faut le gérer. Il y a la fatigue du jour, il y a la fatigue spirituelle. Il y a celui qui est fatigué, comme on vient de le lire dans le psaume, à cause des déceptions infligées par des amis, par des frères, par des sœurs. Vous acceptez quoi le plus facilement ? D'être blessé par des inconvertis ou d'être blessé par des chrétiens ? Soyons honnêtes. Est-ce qu'on accepte plus facilement d'être blessé par des inconvertis parce qu'ils sont dans les ténèbres ? Donc, ils sont dans les ténèbres, nous on est dans la lumière, il y a un combat spirituel, c'est de bonne guerre. Être blessé par des chrétiens, c'est plus difficile à accepter. Et d'ailleurs, David l'exprime, on va le lire s'il vous plaît, dans le psaume 55. C'est important, parce que si nous n'acceptons pas certaines choses, nous ne pourrons pas être dans le repos. Parce que c'est bien joli de dire « parle-moi, montre-moi », oui. Et David l'exprime très bien. Vous savez, les psaumes, c'est des poèmes chantés, mais je peux vous dire que c'est des poèmes aussi de souffrance qui sont chantés. Psaume 55, le verset 13. Et 14 et 15. Regardez bien mes frères et sœurs, parce qu'il y a des gens qui ont rétrogradé parce qu'ils n'ont pas accepté un conflit dans l'église avec un frère ou une sœur. Oui ou non ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont rétrogradé parce qu'il y a eu un conflit avec un frère, avec un pasteur ? Est-ce que ça peut arriver d'avoir un conflit ? Mais oui, soyons intelligents frères et sœurs, soyons intelligents. Psaume 55 verset 13, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. » Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu, etc. Vous voyez, il est blessé par des amis. Il l'aurait accepté d'un adversaire, il l'aurait accepté d'un ennemi. Mais là, il est en train de dire, mais non, c'est toi, un confident. Vous savez, des gens qui ont s'est confié. C'est dur ces moments, c'est dur, et pourtant ça arrive. Donc, si on devait prendre quelques psaumes, je n'ai pas le temps de le faire, Mais on pourrait prendre certains psaumes, certains témoignages, comme les deux que l'on vient de lire dans les psaumes, qui nous montrent que la vie, elle est peut-être pleine de grâce et de miséricorde, mais quand même, elle est aussi faite de blessures, et de déceptions, et de douleurs. Et si nous voulons vivre dans le repos que Dieu donne, car c'est une réalité, c'est comme la paix. Il y a des chrétiens qui sont en danger, et même quand vous leur parlez de paix, vous sentez qu'ils sont un petit peu dans le virtuel, parce qu'ils ne l'ont jamais vraiment reçu. Mais vous, si vous avez été amené à la croix, vous savez que Dieu donne la paix. Vous savez, si vous avez été dans le deuil, vraiment dans le deuil, et que vous vous êtes approché de Jésus, vous savez que Dieu est le consolateur, etc. Mais il y a des chrétiens qui sont en difficulté. Parce qu'ils ne comprennent pas que les instructions de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Ils écoutent sans écouter. Comment un homme peut-il chanter ce troisième cantique qu'on a chanté tout à l'heure, celui qui met en Jésus une pleine confiance, s'il ne pardonne pas? Si vous ne pardonnez pas, vous ne faites pas confiance à Dieu. C'est obligé. Apprendre à pardonner. Est-ce que ça s'apprend à pardonner? Est-ce que vous pardonniez avant votre conversion? Tiens, c'est important de savoir. Est-ce que vous pardonniez avant votre conversion, facilement? Il y a des gens qui pardonnent facilement, parce qu'on le leur a enseigné de tout petit. Il faut pardonner. C'est même pas religieux ou spirituel, c'est comme ça, c'est moral. Apprendre à pardonner les amis, comme on vient de le lire, les amis qui nous ont blessés. Apprendre à pardonner les personnes qui n'étaient pas là quand on avait besoin d'eux. Est-ce que ça, quand même, moi j'étais là quand il était dans le pétrin. Je me suis trouvé dans le pétrin, il n'est pas venu m'aider. Est-ce que ça peut arriver ça? Ou est-ce que ce que je vous dis, c'est des idioties? Non, c'est vrai. Apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés. Il y a plusieurs sortes d'offenses. Il y a des petits trucs, il y a des grosses offenses, il y a des gros péchés, il y a des grosses blessures. Apprendre à pardonner ceux qui ont colporté des mauvaises nouvelles ou des fausses nouvelles. Est-ce qu'on a déjà dit des fausses choses sur vous? Est-ce que c'est déjà arrivé comme vous êtes... Tu sais pas. Tu sais, il est épuisé. Tu sais pourquoi il est épuisé? Je suis sûr qu'il a péché. Et il faut apprendre à pardonner. Parce que ça, est-ce que ça peut arriver? Mais oui, ça peut arriver. Apprendre à pardonner les pasteurs qui se sont peut-être mal, qui se sont trompés. Est-ce qu'un pasteur peut se tromper dans l'évaluation d'une situation? Apprendre à pardonner les pharisiens. Non mais des pharisiens, monsieur Gau, c'était du temps de Jésus, c'était il y a 2000 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui sont légalistes, qui jugent? Je ne parle pas du péché. Le péché dans une église, est-ce qu'il faut le juger? Est-ce qu'il faut juger le péché dans une église? Oui, c'est écrit, ne me faites pas demander l'explication. Il faut juger, mais est-ce qu'on peut des fois se louper et à la place de juger le péché, on juge le comportement des gens, des attitudes, qui font que nous devenons à notre tour des pharisiens? Et ça fait beaucoup de mal dans les églises. Jésus a souvent affronté les pharisiens. Est-ce que Jésus a affronté souvent les pharisiens? Est-ce que Jésus a été sévère avec eux? Oui. Mais est-ce qu'il a eu de la rancune contre eux? Non, jamais. Il a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré, en voyant cette légèreté, ce légalisme qui imprégnait vraiment Jérusalem à cause de la religion. Il a pleuré, il a été offensé. Est-ce que Jésus a été offensé? Est-ce que Jésus a été maltraité? Oui. Comment a-t-il réagi lorsqu'il a été maltraité? Vous connaissez la première parole de Jésus sur le bois de la croix? La première parole, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle souvent, notre frère, le jeune pasteur Nicolas, nous parlait des souffrances de Jésus-Christ, et souvent, nous, quand on prend la Sainte-Seine, et c'est tout à fait normal, et ce n'est pas un reproche que je vais faire, mais nous parlons des souffrances physiques. Je ne pense pas que nous puissions avoir la sensibilité de considérer les souffrances spirituelles. Car comme je le disais tout à l'heure pour le coup de la jambe cassée, qu'on aurait préféré se faire plutôt qu'une dépression, je pense que nous ne savons pas ce que Jésus a souffert intérieurement. Il a souffert vraiment, physiquement bien sûr, il a failli mourir à Gethsémané, puisqu'il suait des grumeaux de sang. Mais la première parole que Jésus prononce lorsqu'il va mourir au calvaire, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et l'apôtre Paul, Pierre, on va le lire dans 1 Pierre, s'il vous plaît. C'est important, mes frères et sœurs. Parce que si on chante « Parle-moi, montre-moi, celui qui met en Jésus une pleine confiance, ne chancelle pas, vous pouvez être sûr que quelqu'un qui ne pardonne pas, il vaut mieux qu'il arrête de chanter. C'est sûr. Et qu'il chante des chansons qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, regardez, c'est important, c'est tout. La première épître de Pierre, c'est sur la souffrance. Si vous avez des sous-titres dans vos Bibles, vous savez que la première épître de Pierre parle sur la souffrance. À tel point qu'il nous demande même, au chapitre 4, on peut le lire, tellement la souffrance fait partie de notre vie, il dit 1 Pierre chapitre 4, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Je ne sais pas si nous nous rendons compte jusqu'où le Seigneur nous prépare. Armez-vous de la pensée de souffrir. Ça peut arriver, il y a plein de joie dans le Seigneur. Mais justement, c'est pour que nous gardions cette joie et cette paix. Donc, chapitre 2, il est parlé des souffrances. On va lire le verset 20, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui correspondent à ce qu'on a chanté. Montre-moi. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec le pardon. Beaucoup de chrétiens ont abandonné Jésus, non pas parce qu'ils ne s'étaient pas convertis, mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait pardonner. 1 Pierre 2, verset 20, verset 19. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, donc ça fait partie de notre vocation. Il faut bien comprendre ces choses, je sais que c'est des mots qu'on n'explique peut-être pas assez, mais ça fait partie de notre vocation. C'est à cela que vous avez été appelés, voilà, ça fait partie de la vie. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Notre exemple, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas les chrétiens rétrogrades. Christ vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait pas d'injures, maltraitait, ne faisait pas de menaces. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Regardez bien, c'est la solution, c'est la clé. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Franchement, est-ce que Jésus, en tant que sauveur, vous allez me dire il était venu en tant que sauveur. Bon, mais soyons clairs, soyons simples. Est-ce que Jésus aurait pu juger toutes les situations qu'il a rencontrées? Bien sûr, et d'ailleurs il sera le juge. Si vous ne l'acceptez pas comme sauveur, là je m'adresse à ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas convertis, qui s'amusent à venir à l'église sans se convertir. Si vous n'acceptez pas Jésus comme sauveur, vous l'aurez un jour comme juge. Vous allez voir qui sait évaluer les situations. Mais là il nous a donné un exemple quand il était sur la terre, voilà, la façon de pardonner. Lorsque nous sommes offensés, lorsque nous sommes injuriés, lorsque nous sommes maltraités, lorsque nous ne comprenons pas qu'un ami, un ami chrétien, ait pu nous décevoir, est-ce que Dieu peut le permettre? Oui, oui, c'est comme ça. Pardonner est à la portée de tout le monde. Si vous faites partie de ces chrétiens, dans l'illusion qui dit « moi, pardonnez-moi, là, ça peut pas, je peux pas, là, ça fait trop de fois, il a exagéré, non, je pardonne pas, quand j'aurai la force, je le ferai. » Vous êtes dans un danger pas possible. Le Seigneur nous enseigne que nous devons pardonner. Si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est qu'on peut le faire. Si le Seigneur nous demande de nous convertir, c'est qu'on peut se convertir. Est-ce que tout le monde peut se convertir? Bien sûr, puisque Dieu demande aux gens de se convertir. Tout le monde peut se convertir. Est-ce que tout le monde peut se repentir? Oui, puisque Dieu dit « repentez-vous ». Tout ce que Dieu nous demande, mais soyons intelligents. Tout ce que Dieu nous demande, on peut le faire. Puisque Dieu nous demande de pardonner, eh bien, je peux pardonner. Les offenses, les injures, même si je fais ce qui est bien et que les gens ne me comprennent pas, eh bien, je dois pardonner. Je dois pardonner. Il a remis toute chose à celui qui juge justement. Vous savez, là, je n'ai pas le temps de parler de cela, mais le jugement aura lieu. Vous le savez que tout sera jugé. À part ce qui est pardonné, c'est pour ça que c'est important de pardonner, de demander pardon, pas de jouer la comédie, mais vraiment de savoir demander pardon. Seigneur, je te demande pardon, là je n'ai pas été bien. Je demande pardon aux frères que j'ai offensés. Tout ce qui est pardonné, c'est oublié. C'est pour ça que la Bible dit souvent, tu effaces mes transgressions. Tout ce qui est pardonné, ça ne sera pas à régler. Ça, c'est sûr. Tout ce que vous avez vécu avant votre conversion, il n'y a aucun problème. Si après votre conversion, vous vous êtes mal comporté, il faut demander pardon à Dieu et à la personne que vous avez offensée. Ou à vous-même. Savoir remettre tout entre les mains du Seigneur. Voilà l'exemple. Je remets. Quand on remet, c'est comme quand on remet un courrier à un facteur. Vous donnez un mot à la poste, vous dites, voilà, ce courrier, je veux l'envoyer. Ce matin, j'ai parlé avec des Guyanais. Je veux l'envoyer en Guyane. Hop, vous faites confiance à la poste. Vous remettez le courrier à la poste, qui, elle, va se charger de l'envoyer où il faut. Quand il est dit que Jésus s'en remettait à celui qui juge, pourtant, je vous assure qu'il aurait pu, j'y reviens, lui juger, non, il est venu en tant que sauveur, il s'en remettait à Dieu. Est-ce que nous sommes capables de tout remettre entre les mains de Dieu? Tout. Toutes les affaires, toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les offenses, tout ce qui a été difficile. Seigneur, moi aussi, je remets tout entre tes mains. Vous comprenez pourquoi le pardon est absolument lié à une confiance en Dieu total. Le Seigneur saura juger, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui sont sur la terre, qui sont réglées. Vous avez eu des difficultés, Dieu vous a fait justice. Est-ce que Dieu peut faire justice sur la terre? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu peut faire justice au ciel? Vous voyez, des choses que nous qui nous dépassent. Tiens, moi j'aimerais que Dieu me fasse justice. Quand même, là-dedans, j'ai été accusé à tort. Moi j'attends que Dieu me fasse justice. Mais pourquoi vous attendriez que Dieu vous fasse justice maintenant? Est-ce que vous lui faites confiance? C'est là le problème. Le procès de Jésus. Bon, je ne veux pas faire la théologie. Le procès de Jésus, est-ce qu'il était juste? Mais non, mais ce n'est même pas la peine d'en parler. Est-ce qu'il a été réglé ce procès? Est-ce qu'il y a eu un appel? Non, ça n'a pas été fait. Non, mais vous allez me dire où tu vas. Je suis en train de vous expliquer que Dieu n'est pas obligé de nous faire justice sur la terre. Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est une entière confiance qui permettra de vivre dans ce repos. Même si c'est avec des amis qui vous ont offensé. Même si c'est un pasteur qui vous a offensé. Parce que des fois, on ne sait pas, on est maladroit. Ça peut arriver. Il y a des gens qui soupçonnent le mal aussi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à tout déposer, à tout remettre entre les mains du Seigneur. Le pardon envers une personne est un acte de confiance. Je fais confiance à Dieu. Je reconnais, comme on l'a lu, que Dieu seul a le pouvoir de juger. Nous, on croit qu'on peut être jugé. On croit qu'on sait juger. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, voilà, le serpent qui a dit, mais voilà, si vous en mangez, vous serez comme des dieux, vous saurez tout faire. Et nous, on croit, parce qu'on est chrétien, qu'on a le pouvoir de juger. Non, ne nous mettons pas en tête que nous savons tout juger. Déjà, ce n'est pas évident dans l'Église de juger des situations de péché flagrantes, dont je ne vous dis pas combien il vaut mieux, par rapport aux offenses, tout remettre entre les mains du Seigneur. C'est vrai que la loi de l'Ancien Testament était claire, œil pour œil. Œil pour œil. Ah, tu m'as offensé, mais je vais te le rendre. Si cette loi existait aujourd'hui, je pense qu'on serait tous aveugles, à peu près. Oui ou non? Sérieusement, est-ce que si on avait le droit de rendre le mal pour le mal, est-ce que, sans qu'il y ait de prison, je parle, est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens aveugles et manchots? Ouais. La vraie foi, écoutez bien, la vraie foi, celui qui met en Jésus une pleine confiance, parce que vous savez, croire en Dieu, c'est une chose. Avoir confiance en Dieu, ça n'est vraiment une autre. Et nous devrions vraiment sortir de ce culte tout à l'heure, même si on n'a pas tout compris, nous poser la question, mais je crois en Dieu, bon, ça c'est clair, vous ne seriez pas là si vous ne croyez pas, mais est-ce que je crois en Dieu et je l'aime? C'est vrai. Mais est-ce que je crois en Dieu, je l'aime et je lui fais confiance? Et quand quelqu'un pardonne, il prouve qu'il fait vraiment confiance à Dieu. Il remet tout entre les mains de Dieu. Seigneur, tu t'occuperas de cette situation ici-bas ou tu t'en occuperas dans le ciel. Ça m'est égal. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de pardonner. Vous vous rappelez quand Pierre pose à Jésus la question, mais parce qu'il est interpellé par rapport au pardon. Et Pierre, bien sûr, lui qui est encore entre la loi et la grâce, pose la question au Seigneur, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Vous connaissez cette fameuse question. Et c'est bien qu'il ait posé la question, parce que ça faisait partie des commandements qui étaient enseignés dans le judaïsme, dans les synagogues. Voilà, mais si un frère t'a offensé dans la journée sept fois, c'est bon. Sept fois, tu lui pardonnes. La huitième, écoute, bon, œil pour œil. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Il y avait plein d'interdictions, plein de commandements qui étaient rajoutés dans le Talmud. Pierre, bien sûr, croit bien faire. Il dit, mais combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, sera-ce jusqu'à sept fois? Et Jésus lui répond, il dit, mais puisque tu veux un chiffre, moi je vais t'en donner un. Bon, ce n'est pas écrit comme ça, mais presque. Ce n'est pas sept fois, c'est 70 fois, sept fois. Ça veut dire 490 fois. Ça veut dire que c'est continuel. Et c'est vrai que c'est un domaine délicat, parce que notre vie est faite de conflits, déjà avec nous-mêmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous regarder dans la glace et de vous dire, mais qu'est-ce que je suis bête? Mais qu'est-ce que j'ai été bête? Ça vous est jamais arrivé? Mais si quelqu'un vous le dit, c'est sûr qu'on n'a pas tout à fait la même réaction, oui ou non? Et le pardon, c'est compliqué. Pierre avait peut-être un problème avec le pardon, on ne sait pas, on n'en sait rien. Mais Pierre était quand même toujours un peu dans la loi, et c'est là qu'il faut comprendre ma prédication. On peut toujours être un petit peu dans le légalisme ou dans le laxisme, c'est dangereux l'un comme l'autre. Nous, il faut que nous soyons dans l'intelligence spirituelle. Dieu me le demande, je le fais avec joie. Ce n'est pas une question de, voyez, de devoir, combien de fois il faudrait que je dise « je t'aime à ma femme » pour lui prouver que je l'aime. Il faut que je mette mon portable toutes les demi-heures, dites-lui que vous l'aimez. Ah bon, mais je vais prendre mon portable, ne le faites pas, et je mets mon portable à sonner toutes les demi-heures, et toutes les demi-heures, je lui envoie un texto, « chérie, je t'aime, si tu savais comment je t'aime ». Je lui dis 30 fois par jour ou 60 fois par jour. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Bien sûr, 60 fois. Ah, mon mari, 60 fois dans la journée, tu te rends compte, Justine? Il m'a envoyé 60 fois. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Justine. Il m'a envoyé un texto 60 fois qui m'aime. Est-ce que c'est la preuve qu'on aime sa femme pour autant? Bien sûr que non. Donc, je dois faire attention de ne pas réduire les instructions de Dieu à des commandements, à des lois. Mes frères et sœurs, c'est important. Parce que franchement, chanter des cantiques comme ceux de ce matin et ne pas comprendre ces choses, c'est vraiment de la religiosité, de l'illusion. Bien sûr que quelqu'un qui n'est pas converti ne comprend pas ces paroles, mais 490 fois, ça nous parle également de l'amour de Dieu, le pardon continuel. Est-ce que vous croyez que Dieu ne se lasse pas de pardonner? Est-ce qu'il y a des versets dans la Bible où c'est écrit que Dieu, notre Dieu, ne se lasse pas de pardonner? Est-ce que c'est écrit, ça tient en fait? Où c'est écrit? Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, ça vous touche pas ça quand même? C'est dans Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant retourne à Dieu, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, car notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ce n'est pas ce que Dieu demande aux hommes, c'est bien, c'est extraordinaire, que de savoir que Dieu nous demande que notre pardon soit continuel, mais le ciel, lui, il est continuel. Que son nom soit béni. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et pour cela, je rappelais, Jésus a donné, vous connaissez la parabole dans Matthieu 18, qui suit justement la question de Pierre. Le Pierre, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? On pourrait la lire, parce que je vois qu'on a le temps. Dans Matthieu 18, vous savez cette parabole? Jésus va. Vous savez, c'est important d'expliquer, d'exprimer, de comprendre. C'est lié au repos, c'est lié à l'exaucement des prières. C'est lié à l'exaucement des prières. Au repos. Et à l'exaucement des prières, c'est dans Matthieu 18, donc Jésus, il lui pose la question, Jésus lui donne la réponse, et tu pardonneras 490 fois. Donc tu pardonneras continuellement, comme Dieu le fait pour nous, envers toi. Et puis au verset 23, Matthieu 18, 23, il va donner une explication. C'est une explication sur le pardon. C'est Jésus qui parle, c'est pas un pasteur qui fait une parabole de la Bible, c'est Jésus qui parle. Matthieu 18, 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 25 millions d'euros. Oui, là, ça vous donne peut-être une idée un peu plus précise. Un serviteur qui devait 25 millions d'euros. Est-ce que c'est possible à l'époque? J'en sais rien. À l'époque, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Est-ce que c'était possible? Non. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, à peu près 4 mois de salaire. Vous voyez? Allez, 4 800 euros, 5 000 euros. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, et regardez bien, il reprend les mêmes paroles. « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette ?» Parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'en ai eu pitié de toi? Et son maître irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Cette histoire, c'est Jésus qui la donne. C'est une vérité, ce n'est pas une parabole pour les enfants. C'est une vérité spirituelle. Avant le culte, nous avons prié pour les chrétiens qui sont emprisonnés. Et notre frère Jonathan, qui a prié dans la foulée, justement a prié, sans savoir que j'allais prêcher là-dessus, par rapport aux gens chez nous qui sont emprisonnés à cause du manque de pardon. Et le problème, c'est que non seulement c'est la preuve qu'on ne connaît pas Dieu, puisqu'on ne lui fait pas confiance, parce que quand vous connaissez quelqu'un, écoutez, moi je ne suis pas un théologien, sincèrement, c'est vrai en plus. Mais une chose est sûre, plus vous connaissez Dieu, c'est implacable. Plus vous connaissez Dieu, plus vous lui faites confiance. Et c'est clair, quelqu'un qui ne pardonne pas, il est emprisonné. Et c'est pour ça qu'il y a plein de rétrogrades. Et c'est une loi. Et quelqu'un qui est emprisonné est dans une situation doublement périlleuse, parce qu'en plus Jésus, dans le Notre Père, ajoute et fait un seul commentaire à cette ébauche de prière. Il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut simplement dire que lorsqu'on ne pardonne pas, on se met doublement en vrac parce qu'on est emprisonné et en plus, nos prières ne seront pas exaucées. Alors mes frères et sœurs, c'est important, cette dette, elle a existé, une dette de 25 millions d'euros, elle ne se volatilise pas, quelqu'un a payé. Et c'est important, chaque fois que nous partageons la parole de Dieu, de nous souvenir que même si Dieu ne se lasse pas de pardonner, même si cette dette de 25 millions d'euros, c'est Jésus qui prend l'image, que personne ne pourrait rembourser, quelqu'un l'a payé. Et c'est Jésus qui a payé. Que son nom soit béni. Parce que nous ne pouvions pas payer. Mais ce gars, ça prouve qu'il n'a rien compris. La parabole nous enseigne qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Elles sont capables d'être touchées par la présentation de la Sainte Cène ou même par un sermon qui aborde le pardon. On dit, c'est vrai quand même, c'est merveilleux. Et dans 2 heures, d'avoir tout oublié. Ah, tu m'as fait ça, j'en ai marre, tu m'avais dit que tu ne recommencerais pas. Mes frères et sœurs, nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, il est vainqueur. Je dois pardonner inconditionnellement. Jésus a payé, oui, comme le disait Jérôme dans sa prière. Vous vous rappelez la prière de Jérôme? La louange de Jérôme? Si seulement, franchement ça suffisait, si Jésus n'était mort que pour nous ouvrir le ciel, est-ce que c'était bien déjà? Est-ce que ça suffisait? Ben oui, sincèrement, si Jésus était mort, que pour nous ouvrir le ciel pour l'éternité, vous allez me dire que c'est déjà gagné d'avance. Mais non seulement Jésus est mort pour nous ouvrir le ciel, c'est bien ça que vous avez dit, mais Jésus il est mort pour que sur la terre, nous puissions vivre dans le repos. Vraiment dans le repos. Et si nous n'écoutons pas, Seigneur parle-moi, moi quand je chante ces cantiques, des fois je tremble. Je dis, mais dans quel état sont les chrétiens de l'Église? Dans quel état sont-ils? Est-ce qu'ils chantent? C'est vrai qu'en plus, il y a de belles mélodies en plus. On a des cantiques, et c'est très bien qu'il y ait de belles mélodies. Mais il y a des mélodies qui font que ça porte tellement les paroles qu'on en oublierait le message. Parle-moi, montre-moi. Est-ce que je pourrais être dans le repos si je ne pardonne pas? Non, si vous ne pardonnez pas, vous pouvez dire, Seigneur, donne-moi le repos, Seigneur, j'ai besoin de paix. Non. Et le Saint-Esprit, bon, oui, tu as de l'amertume envers monsieur untel ou madame, ou ta voisine, ou tes voisins qui font du bruit jusqu'à 2h du matin, tu ne le supportes plus. Eh bien, Seigneur, merci. Comment c'est écrit ça, de rendre grâce? C'est écrit, monsieur, dans votre Bible? Oui, dans la vôtre aussi. Rendez continuellement grâce à Dieu. Considérer les diverses épreuves comme un sujet de joie. Moi, je crois que Dieu peut changer les voisins. Je crois que Dieu peut nous éprouver au travers d'une situation. Je veux apprendre à pardonner. Après, je peux le dire. Je vais quand même écouter ce que vous... Voilà, j'ai du mal. Après, on dit la vérité. Mais mes frères et sœurs, Dieu nous a donné un exemple. Il nous a donné un exemple. Afin que nous suivions ses traces. Parce que je peux vous dire que les gens sont de plus en plus méchants. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que les gens vont devenir de plus en plus gentils? Est-ce que les gens vont devenir de plus en plus altruistes? Est-ce que les gens vont devenir de plus en plus heureux et joyeux? Non. Les gens seront, même dans l'Église déjà, parce que c'est des prophéties qui concernent l'Église, puisqu'il est dit aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, ce n'est pas les païens qui ont l'apparence de la piété, c'est les pseudo-chrétiens. Donc ça s'adresse aux chrétiens. Et donc nous rencontrerons de plus en plus dans les églises qui sont légères et dans les églises qui ne sont pas spirituelles, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, ça sera de plus en plus difficile. Et donc, il va falloir que nous nous appliquions à dire, mais moi, de toute façon, tu m'as donné un exemple, toi, tu as été crucifié, tu n'as rien dit. Il aurait pu, vous le savez, qu'il aurait pu appeler, il y avait 12 légions d'anges dans l'invisible qui n'attendaient qu'un regard de Jésus pour s'occuper de ces gens-là. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il avait le pouvoir de le faire? Ben oui. Il aurait pu dire, bon, là, ça suffit, là, ils ont exagéré. Et il n'y avait rien à dire, en plus. Il n'y avait rien à dire. Il n'y aurait eu rien à dire. Il aurait pu dire, bon, c'est bon, les anges, délivrez-moi. Une seconde après, il était délivré, Jérusalem était rayée de la carte. Il ne l'a pas fait. Il nous a donné un exemple. Eh bien, moi, je vais suivre son exemple. Je prends la décision de pardonner. Des fois, j'ai de l'amertume. J'ai de l'amertume, tiens, contre ma femme, j'ai de l'amertume contre mon mari, j'ai de l'amertume contre mes enfants, contre mon employeur, tiens, j'aurais dû avoir l'avancement. J'aurais dû avoir l'avancement quand même. Ça fait 3 ans qu'il me promet l'avancement. Et j'ai appris que c'était Justine qui avait eu l'avancement. Et Justine, elle a cédé à ses avances pour avoir l'avancement. Elle est incompétente, mais elle a eu l'avancement parce qu'elle a cédé. C'est injuste. C'est ça être chrétien? Eh bien, ouais. C'est la vie. C'est ça la vie. Mes frères et sœurs, un jour, Dieu jugera la terre. Un jour, nous comparaîtrons devant Dieu, non pas pour être condamnés, parce que le mot juger, ça ne veut pas forcément dire condamné. Quand il est dit que le jugement commence par la maison de Dieu, le jugement, ce n'est pas le fait d'être condamné. Pour l'Église, le jugement, ça veut dire rendre des comptes. Mais les gens qui ont abandonné Dieu, eux seront jugés dans le sens de condamnés. Nous voulons faire comme le Seigneur a fait. Je vis dans un quartier difficile. J'ai une famille, je me suis marié avec un inconverti. Vous avez fait le choix. Nous, on n'a pas à vous juger. Eh bien, je vais pardonner. Il nous a donné un exemple afin que nous suivions ses traces. Mes frères et sœurs, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Et si vous ne recevez, si vous dites oui, mais ça c'est vous qui le dites, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui enseigne un truc sur le pardon. C'est ce que Dieu dit sur le pardon. Et si nous suivons son exemple, nous resterons dans le repos et son joug sera doux et son fardeau léger. Et quand la trompette sonnera, ce qui pourrait se passer très bientôt, eh bien, nous partirons avec lui dans la gloire, parce que nous aurons eu l'intelligence, lorsque nous écoutions la parole de Dieu dans l'église où Dieu nous a placés, eh bien, de dire, oui, c'est vrai, j'ai des progrès à faire, eh bien, je vais les faire. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de faire des progrès dans le pardon. Peut-être que dimanche, le Saint-Esprit nous conduira dans un autre sujet. Je vais continuer mon étude sur les couples, parce que j'ai vraiment à cœur de parler de l'intimité dans le couple, parce que, mais vous savez, l'intimité dans un couple, l'intimité physique, comment peut-elle exister si déjà ces principes spirituels ne sont pas abordés? Comment une relation physique entre un homme et son épouse peut être agréable si le pardon n'existe pas? Voyez qu'on ne peut pas saucissonner la vie spirituelle. Tout est lié, mais nous avons un Dieu qui est prêt à nous aider. Et si ce matin, il m'a mis à cœur de prêcher sur le pardon, sur la confiance pour pardonner, parce qu'en fin de compte, c'est là. Comme je te fais confiance, Seigneur, je ne peux pas faire autrement que de pardonner. Que son nom soit béni. Notre Père, oui, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, non seulement tu es venu pour verser ton sang et nous ouvrir les portes de l'éternité, et en plus, sur la terre, les années que nous avons à y vivre, tu nous donnes cette grâce de pouvoir vivre dans le repos. Même dans ces temps archi-difficiles, Seigneur, nous te bénissons. Tu dis que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et nous savons que c'est en obéissant à ta parole. Alors donne-nous, Seigneur, mais de comprendre ces choses. Avec notre cœur, donne-nous, Seigneur, de ne pas devenir des pharisiens ou légalistes ou laxistes. Donne-nous de devenir des disciples qui amèneront la bénédiction sur l'Église. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni pour la grâce qui coule du calvaire. Merci, Seigneur. Amen. Amen.